För exakt 50 år sedan så befriades Paris efter den tyska ockupationen. Fransmännen jublade förstås, men det saknades några, och då tänker jag inte bara på dem som stupat i striderna. 74 000 fransmän skickades till dödslägren. 74 000 franska judar, bara ett fåtal återkom. Kvällens dokumentär tar upp ett känsligt ämne. Om nazisternas medlöpare i Frankrike och vad som hände innan Paris befriades.
Rosen är amerikansk medborgare. Han bor i ett fridfullt villaområde på Long Island, New York. Eric är född i München. För 50 år sedan flydde han och hans mor undan nazisterna i Tyskland. Först till Italien och sen till Frankrike. Nu återvänder Eric till Nice, som för honom betydde inledningen till förintelsen i Frankrike. ...1943 var Eric 14 år. Då arresterades han utanför järnvägsstationen i Nice och fördes till Gestapos högkvarter på hotell Excelsior.
I was carrying false identity cards for other people. A German came out and he arrested me. I immediately told him that my name is... I had a French name. I did not give my Jewish name, but it didn't help. What they did is they asked me one single question: take down your pants. They wanted to see my genitals. They saw that I was circumcised, and that was it.
Tillsammans med andra judar från Nice sattes Eric på ett helt vanligt tåg till Paris. Han fördes till Drancy, ett koncentrationsläger 7 kilometer från Paris centrum. Drancy var avsett att bli ett hyreskomplex. Arkitekturen var påverkad av tysk modernism och området var det första i sitt slag i Paris. Bygget hade påbörjats i slutet av 30-talet, men var fortfarande inte avslutat 1941, då det förvandlades till ett koncentrationsläger för judar. Drancy var inte det enda koncentrationsläget i Frankrike. På 30-talet hade man anlagt en hel kedja av uppsamlingsläger för flyktingar från spanska inbördeskriget och för judar som flytt undan nazisterna. Lägren administrerades av det franska gendarmeriet, en militärt organiserad poliskår. Frankrikes regering hade utformat ett system för internering av vad man ansåg vara misshagliga personer. Majoriteten av dessa var judiska flyktingar. På 30-talet var de judar som bodde i Frankrike uppdelade i två grupper, det man kallade israeliter och immigranter. Israeliterna hade levt i Frankrike i många generationer. De tillhörde i regel medelklassen och fann sig väl till rätta i den franska kulturen. Immigranterna hade kommit senare från Östeuropa, varifrån de flytt undan pogromerna i sina hemländer. De judiska immigranterna tillhörde mest arbetarklassen. De skilde sig från mängden antingen på grund av sina ortodoxa seder eller sina vänsterradikala åsikter. De flesta bodde i judiska arbetarkvarter, som till exempel i 11:e arrondissemanget. Jacques Adler, vars föräldrar var immigranter, var väl medveten om skillnaderna mellan israeliterna och immigranterna.
We are two worlds coexisting. unhappily coexisting. On the one end, you had the old established Jewish conservative forces represented by the French Israelite. On the other hand, you had these immigrant Jews who have brought with them a culture, a sense of national identity that lived a totally separate life, totally different understanding of the political life of the time, the crisis of the 30s, Munich, what was happening in Nazi Germany, which was totally at variance with the French Israelites.
Judeförföljelsen hade redan inletts på andra håll i Europa. Men i Frankrike kände sig judarna säkra. De kände tryggheten i frihetens, jämlikhetens och broderskapets land. 1940 var Liliane Lévy-Osbert 21 år gammal.
On est une famille assez intégrée, plutôt traditionnaliste que religieuse. Ce qui avait d'importance, c'était l'école, mes amis, mes petites camarades. Et j'étais très, très, très parisienne, française.
Eric Rosen minns med glädje sin uppväxt i Nice.
I went to the beach, I was swimming, and I had friends, and I had girlfriends, and I had a very, very nice life. In the evening I had my Hebrew lessons, or I went to Hebrew school, and Saturday I went to synagogue.
Eva Fagelson har också goda minnen från sina unga år i Paris.
Nous avions une bonne vie en France. Mon père et ma mère adoraient la France. Mon père allait le matin. Il descendait tous les matins boire son café dans le coin du passage Charles Dalry et de la rue de la Roquette où nous habitions. Et il adorait tout son entourage français. Et tout allait bien pour nous. C'était une vie formidable avant l'arrivée des Allemands.
I maj 1940 ryckte Hitlers pansardivisioner fram genom Nordfrankrike. Den 14 juni föll Paris i tyskarnas händer. Frankrike kapitulerade. En vecka senare slöt fransmännen ett avtal om vapenstillstånd med nazisterna. Frankrike delades i två delar. Tyskarna ockuperade den norra delen och inrättade en så kallad fri zon i söder, där den samarbetsvilliga Vichy-regeringen skulle ha sitt säte. I ett försök att återupprätta nationens ära utsågs den franske krigshjälten marskalk Philippe Pétain till statschef. Pierre Laval, tidigare socialist, blev efter en tid konseljpresident. I Vichy-regeringen, som strävade efter att bli den näst största makten i Hitlers nya Europa, utnyttjade de antisemitiska tendenser som redan förekom i Frankrike. Vichy tog upp en propagandakampanj mot judarna. Och utan påtryckningar från Tyskland infördes antisemitiska förordningar. Alla judar tvingades registrera sig hos polisen. Och i oktober 1940 införde Vichy en lag som fråntog judarna deras medborgerliga rättigheter. När den lagen offentliggjordes var en av de främsta advokaterna i dagens Frankrike, Maître Yves Jouffat, 20 år gammal. Han hade just demobiliserats från den franska armén.
Ça a été pour moi un événement extraordinaire, terrible, aussi grave que la défaite et l'armistice. Je suis allé trouver immédiatement mes chefs de camp. Et je leur ai dit, je ne suis plus un citoyen. Je vous demande en conséquence de me dispenser de tous les services que je faisais jusqu'à maintenant, le matin, le salut au drapeau, les corvées, etc. Et ces deux hommes, que je voudrais bien retrouver maintenant, ont hésité 2-3 secondes, se sont regardés, et ils m'ont dit, nous vous comprenons, nous sommes d'accord.
Den 20 augusti 1941 omringade fransk polis 11:e arrondissementet i Paris. Det hade blivit ett centrum för ett växande judiskt motstånd mot de tyska ockupationstrupperna. Motståndsrörelsen som leddes av unga kommunister organiserade demonstrationer och tryckte antinazistiska flygblad. Delvis som en vedergällning beordrade tyskarna och fransmännen att arrestera judiska män i området. Operationen verkställdes av 2400 poliser och gendarmer.
Deux flics, deux agents de police en uniforme et un civil. Et ils venaient arrêter M. Israël Radzinski, c'était mon père. Et ma mère était incapable de prononcer une parole. Ça faisait à peine un an, pas tout à fait un an que son mari était mort. Elle était incapable de prononcer une parole, elle était paralysée pratiquement.
Polisen arresterade Samuel istället för hans avlidne far.
Mon père m'appelle. Yves descend, on vient nous chercher. Et il y avait là deux policiers, de ceux qu'on appelle vulgairement les flics, un gardien de la paix et un brigadier. J'ai dit à ce moment-là, je vous rappelle que j'étais sous l'uniforme français il y a quelques mois. Ce n'est pas très beau ce que vous êtes en train de faire. J'ai mieux être à ma place qu'à la vôtre.
Över 4000 judiska män greps. Franska polisen genomförde hela operationen, från arresteringarna till den efterföljande handläggningen. De samlade in judarna i bussar som kommenderat dit från Paris kommunala transportsystem. Under SS överinseende körde franska busschaufförer fångarna till koncentrationslägret i Drancy.
Et j'ai été amené à Drancy le 20 août 41. Il devait être 8 ou 10 heures du matin. Je ne peux, entre 8 et 10 heures du matin, je ne peux pas vous préciser l'heure parce que j'avais pas eu le temps d'emmener ma montre. Hein. Et j'ai donc fait, avec près de 5000 autres personnes, j'ai fait l'ouverture du camp de Drancy.
Pensions qu'on allait nous libérer après une vérification. C'était de la folie, mais on n'avait pas encore arrêté de Français. Moi, je venais d'être démobilisé quelques mois auparavant. Stupidement, on a cru qu'on allait nous libérer.
Si on n'avait pas vu qui avait déjà des barbelés, on aurait pu croire qu'on arrive dans un groupe d'immeubles plutôt modernes d'aspect extérieur, puisque la construction avait commencé, mais elle n'était pas terminée. Il n'y avait par exemple pas d'installation d'eau, pas d'installation sanitaire, à peine des installations électriques et encore pas partout. Donc, une fois arrivé dans le camp, on a été répartis, on a été mis dans des chambrées. Des chambrées, c'était des grandes pièces où on n'avait pas encore fait les cloisons, où on était 50 par pièce.
Nous étions sur des chalis qui vont très vite être pleins de punaises, d'ailleurs, on se battra avec les punaises. Sur ces chalis, pas de matelas, pas même de la paille. On dormait à même les lattes de bois. Et le régime va être très vite assez dur.
Il y a des gens qui probablement s'étaient jamais déshabillés devant leurs enfants. On a été 50 dans une chambre, on était tous pratiquement se connaissaient pas, être obligé de se déshabiller devant les autres, c'était déjà se sentir rabaissé, un être inférieur.
Från augusti 1941 till juli 1943 sköttes Drancy av enbart fransmän. Inuti lägret svarade gendarmer för disciplinen. Beväpnade med maskingevär bemannade de också vakttornen och patrullerade det omgivande taggtrådsstängslet.
Il y avait deux brigades de gendarmes. Et l'avait-on fait exprès? L'une de ces brigades était très répressive, antisémite, odieuse. L'autre était très correcte et plutôt compatissante. Je me souviens d'un autre, un officier de gendarmerie, qui nous obligeait à longer les murs. Et à un certain endroit, il y avait une vingtaine de robinets d'eau. Ces robinets étaient reliés au mur par un tube qui était peut-être à 50 cm du sol. Quand on passait comme il fallait longer le mur, on était obligé de ramper sous le tube pour passer là.
Fångarna tvingades själva sköta den inre administrationen av lägren. Komplexet var byggt runt 22 trappuppgångar. Fångarna måste själva utse en chef för varje trappa. Under de första månaderna var deras uppgift att fördela de magra brödransonerna. Klassskillnaderna mellan immigranter och israeliter utnyttjades. Immigranterna tilldelades de lägre sysslorna, medan israeliterna fick de behagligare uppgifterna och skötte administrationen.
The Nazis tested the system in Germany, where they had compelled all the Jewish organization to centralize themselves and be represented by one central leadership. The same principle was applied in the camp. You got the Jews to run the internal administration under supervision. In the case of Drancy, it was under French supervision, which itself was supervised by the Nazis.
Leur principe, c'était de faire le travail de gestion, d'administration à l'intérieur du camp ou des prisons, par les prisonniers eux-mêmes. Donc, ils recrutaient déjà parmi ce qu'ils appelaient les proéminents, les gens déjà qui parlaient, tout le monde parlait français, mais ceux qui avaient à leurs yeux plus de qualité que d'autres, qui savaient écrire par exemple. Alors, il s'est formé une caste, ceux qui travaillaient dans les bureaux, ceux qui travaillaient à la cuisine, hein, ceux qui avaient n'importe quel petit emploi, n'importe quelle petite fonction, ça signifiait aussi une différenciation dans le régime.
Bristen på livsmedel var stor. I september var svälten ett faktum.
Au bout de quelques semaines est apparu des hommes qui, après avoir terriblement maigri, gonflaient, étaient atteints d'une sorte d'œdème. Très grave, parce que quand un homme commençait à gonfler, c'est un signe. Et il y a eu, à cette période, quelques dizaines de morts de famine. Sur leur fiche, on inscrivait « mort de misère physiologique ». Misère physiologique.
Den enda toaletten för de 5000 fångarna var en latrine i ena änden av gården.
Derrière cette baraque des latrines, des toilettes, en France on dit des chiottes, hein, on mettait les ordures du camp. Et ça, là, j'ai vu des choses que je ne pourrais jamais oublier. Ça, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, mais je constatais, ça n'est pas condamné. J'ai vu des hommes, ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être moi aussi, mais pour moi qui avait 18 ans. J'ai vu des hommes se précipiter sur les ordures et les ordures d'un camp de concentration. Les ordures, c'est déjà, c'est épouvantable, mais les ordures d'un camp ou d'une prison, c'est inimaginable. Alors j'ai vu des gens, ils attendaient et ils se précipitaient pour trouver à manger. Hein? Alors bon, je ne l'ai pas fait. Je suis ému parce que quand je parle de ça, je pense aussi à ce qui s'est passé après.
Drosiläget låg mitt i ett litet samhälle med 35 000 invånare. De som bodde intill kunde se in i lägret. Och de kunde se gendarmerna i vakttornen med osäkrade automatvapen. Från ett café tvärs över gatan kunde gästerna se rakt in i lägret. Gendarmerna drev så att börshandel kunde mutas att ta in matpaket och till och med till att få fånga frigivna om man betalade ordentligt. Hyresgästerna i de närliggande höghusen hade utsikt över hela lägret. René Ambolas var 9 år när de första judarna fördes till Drancy.
La pensée des Drancéens libres et des internés, était, on ne pouvait pas la comprendre parce qu'on ne les connaissait pas, on ne pouvait pas leur parler, on ne pouvait pas s'arrêter. Et en plus, les gens avaient peur d'en parler, chacun avait peur de son voisin. Tout le monde avait peur d'être dénoncé pour la moindre chose et ça a été vraiment le fait primordial qui a fait que les gens n'en parlaient pas. Parce que chacun avait peur d'être dénoncé, on ne savait pas pourquoi ces gens étaient là. Et chacun avait peur d'être dénoncé pour une raison quelconque et d'aller les rejoindre. C'est ça qui dominait finalement. C'était pas une indifférence, humaine, c'était la peur. On avait peur.
I november 1941 hade förhållandena i det franskstyrda lägret blivit så fruktansvärda att de tyska myndigheterna såg sig tvungna att ingripa.
Je pense qu'à ce moment-là, les Allemands ont eu peur. Peur de quoi? Qu'il y ait à l'intérieur du camp le choléra ou une épidémie, que cette épidémie soit transmise aux gendarmes qui nous gardaient, lesquels la transmettra à l'extérieur. Et n'oubliez pas que nous étions aux portes de Paris, éventuellement à l'armée d'occupation.
I november det året frigavs allvarligt sjuka interner och alla som var under 18 och över 70. Vid Wannsee-konferensen i januari 1942 lade nazisterna sista handen vid sin plan för den slutgiltiga lösningen. I Frankrike vidtogs en hel rad repressiva åtgärder mot judarna och de tvingades bära den gula stjärnan. Med intensiv antisemitisk propaganda förbereddes den allmänna opinionen på en total utrensning av judar i Frankrike. Och så, i mars 1942, överfördes 1112 judar från lägret i Compiègne till Drancy. Från Drancy skickades de vidare österut. Mellan mars och juli deporterades ytterligare 4 000 judar från Frankrike. I april utnämndes René Bousquet till chef för franska polisen av Vichy-regeringens konseljpresident Pierre Laval. Franska polisen hade redan registrerat namn och adress på alla judar i Paris. Under Bousquets ledning förberedde polisen en omfattande razzia som skulle rensa Paris från judar. För att få en effektivare kontroll på judarna hade nazisterna krävt att fransmännen bildade en central judisk organisation. Union Générale des Israélites de France, UGIF.
On the 2nd of July 1942, the head of that central Jewish representation in Paris was informed by his commissioner for Jewish affairs that you must expect very shortly to deal with the need to equip 7,000 people that would be sent east. On the 2nd of July, the leadership of that central organization, made up of French Israelite, because as a French institution, organized by the French government. It had to be led by French citizens. That institution was aware that a vast measure of internment was in preparation.
Trots att styrelsen i UDIF kände till planerna på en omfattande razzia varnade de inte sina judiska bröder.
Mon père avait un client qui était un inspecteur de police. Un très brave homme qui aimait beaucoup mon père. Il est venu deux ou trois jours avant et il a dit à ma mère, faites attention, on a des listes, on va arrêter tous les juifs. Ma mère m'a dit, tu vas dans tout le quartier, tu vas chez tes amis, tu préviens tous tes amis qu'on va arrêter les juifs. Alors je suis partie partout, chez mes camarades de classe, mes petites amies et tout. Et partout où j'allais, les gens ils ne voulaient croire. Et en plus, où ils auraient pu aller? Ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient les étoiles. Ils étaient inscrits comme juifs.
I Drancy förberedde man sig inför anstormningen.
On nous a fait vider un certain nombre d'escaliers. Et nous avons compris qu'il allait donc y avoir des rafles. Et d'ailleurs, il y a eu des indiscrétions de la part de certains policiers ou de certains gendarmes.
Den 16 och 17 juli 1942 deltog över 3000 franska poliser i en razzia som genomfördes över hela staden. 13000 judar arresterades. Den här gången tog man även kvinnor och barn. Skräcken spred sig i de judiska kvarteren. Några kvinnor kastades ut genom fönstren med sina barn. 100 självmord rapporterades under det stora svepet. De 13 000 fördes till Vélodrome d'Hiver, en populär cykelarena. Velodromen låg mitt emot Bir Hakim-bron och metrostationen med samma namn. En mycket trafikerad del av Paris. Härifrån fördes judarna till tre koncentrationsläger. Pithiviers, Beaune-la-Roland och Drancy.
J'ai vu de mes yeux des femmes séparées de leurs enfants par des soldats allemands à coups de baïonnette. Tellement que un certain nombre d'entre elles sont devenues folles. On les a mis dans ce qu'on appelait le bloc 3. On les entendait hurler la nuit. Et une dizaine ou une douzaine d'entre elles se sont suicidées tant sur l'espèce de toit en béton qu'il y a tout autour du camp, une espèce de préau.
Among these 13,000 Jews arrested were 4,000 kids, 4,000 children under the age of 12. Around their neck were placed a bit of string with a bit of cardboard, and the name of the child was written down on that cardboard. Kids being as they are, they would swap these tickets with their names on. They would throw them away. No one knew the name of these children. And they were kept for 3 or 4 weeks in Beaune-la-Hollande. Kids unable to look after themselves, unable to eat the cabbage on which they were fed daily. Kids being sick with diarrhea within a few days. And then the problem for Daneker, in charge of Jewish affairs, was what does he do with these children? Berlin had given order to send men and women of working age. Daneker sends a telex to Berlin, to Eichmann. What do I do with the children? It takes Berlin 2 weeks to reply. Send the children as well.
På den franska sidan togs beslutet att deportera barnen av konseljpresident Pierre Laval.
The French gendarme that had to load the kids in Beaune-la-Hollande onto buses to take them to the railway station were seen to use truncheons on kids. kicking the kids along to get them to move on quickly onto the trucks and buses.
Barnen fördes till Drancy, till de tusentals vuxna som redan befann sig där. De flesta av dem blev kvar 2-3 veckor innan de deporterades. Under den här perioden deporterades 4000 judar varje vecka. De fick veta att de skulle föras till arbetsläger. 1942 var Roger Chandalou trappchef i Drancy, en befattning som nu inte bara bestod i att dela ut bröd.
Peu de temps après mon arrivée, j'ai pu avoir un petit emploi qui était adjoint chef d'escalier. Ce travail consistait surtout à m'occuper de la distribution du pain, de la soupe, etc. et des appels, et éventuellement aider les gens si on pouvait les aider. Mais on disposait d'ailleurs de très peu de moyens d'aider. Un peu plus tard, c'est-à-dire quelques mois après, j'étais chef d'escalier. C'était à peu près la même chose, à la différence que j'étais mis à m'occuper d'escalier, de ce qu'on appelait l'escalier de départ.
I augusti ökade deportationerna från Drancy till 3 transporter i veckan.
Un départ, les gens étaient désignés, passaient à la fouille, étaient mis dans ces escaliers à raison de environ 70 par chambre. Les chambres, c'était une grande pièce où il y avait un peu de paille et c'est tout. Le lendemain, ils étaient déportés.
Les chefs d'escalier, ils les mettaient dans l'obligation, eux, de prendre des responsabilités, c'est-à-dire de remplir les listes de ceux qui allaient partir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben, bien sûr qu'ils auraient pu refuser. Ils auraient été déportés eux-mêmes. Mais n'importe comment, la quasi-totalité de ceux qu'on fait les listes ont été aussi déportés.
Donc, réveil vers 5 heures du matin, café, réunion, etc. À 6 heures, il n'y avait plus personne. On enlevait la paille des fois, pas toujours. Et on peut dire que dans la matinée, il arrivait de nouveaux internés qui allaient partir 2 jours après.
Il y a des autobus qui sont là. Le compteur tourne, on nous jette là-dedans, on nous empile et on fait un très court voyage, très court, parce que de Drancy à la gare de Bobigny, c'est pas loin, et on arrive sur des quais, c'est désert, c'est la nuit, il y a des projecteurs et des wagons à bestiaux. On remplit, on tasse les gens dans ces wagons. Et quand on est bien tassé, les Allemands, ferment la porte, verrouillent, et on part pour Pichipoy. Pichipoy, c'était le nom qu'on donnait, c'est un nom polonais, je crois. Et à Drancy, on disait, on part à Pichipoy, c'est-à-dire au-delà, quelque part. Et le quelque part n'était pas connu. Heureusement ou malheureusement, mais on allait à Pichipoy.
On ne comprenait pas, on ne savait pas où ils allaient. Certainement d'autres personnes le savaient, bien entendu, mais le commun des mortels des environs ne le savait pas. On savait qu'ils allaient à la gare de Bobigny, en majorité, mais on ne savait pas dans quelle direction on les envoyait.
On ne savait pas ce que c'était, où allait-on. On avait trouvé un mot, Pichipoy. Voilà, on va à Pichipoy. Quoi faire ? On ne savait pas. Beaucoup partaient avec l'espoir de vivre, parce qu'on disait, on va nous faire travailler certainement dur, mais pour qu'on travaille dur, il faut qu'on nous nourrisse. Ça nous paraissait logique. On ne réfléchissait pas à ce qu'on voyait. On aurait dû réfléchir un tout petit peu plus quand même.
De flesta transporterna utgick från stationen Le Bourget Drancy. Tågen kördes av franska lokförare fram till tyska gränsen. Stationen ligger vid ett litet torg mitt emot ett välbesökt café. Caféet var stamlokus för de anställda vid järnvägen och arbetarna bevittnade deportationerna från Drancy.
Nous avons été interpellés par l'arrivée d'autobus qui venait du camp de Drancy et qui se dirigeait, qui était dans la cour en bas de la gare du Bourget Grande Ceinture. Et cet autobus-là était convoyé par des personnels de la RATP et accompagné par des gardes mobiles du camp de Drancy, avec dans chaque autobus un officier allemand ou quelqu'un allemand qui avec mitraillette. Il y avait des femmes et des enfants, des hommes, je pense m'en rappeler que c'est des hommes déjà d'un certain âge, il ne devait pas avoir des hommes jeunes. Mais il y avait des enfants, ce qui m'était resté, c'est que les gardes mobiles ont demandé s'il y avait des enfants de moins de 3 ans ou quelque chose, ça peut être 2 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus, pour leur donner des boîtes de lait condensées, avant de les emmener dans les wagons.
Je dois dire que c'est à cette époque que nous avons vraiment compris quel était le sort des Juifs internés puis déportés. Jusque-là, on pouvait douter. Car au fond, les déportés étaient surtout des hommes jeunes et très bien portants. Et donc la fiction du travail dans des camps de travail pouvait apparaître comme plausible. Mais lorsqu'on a vu partir des trains entiers d'enfants malades, pouilleux, fiévreux, tout petits, un grand frère de 6 ans qui traînait sa sœur de 4 ans et son petit frère de 2 ans, des vieillards, des gens qu'on emmenait sur des civières, des malades, des tuberculeux, ces femmes folles dont je vous parlais, alors on a compris que c'était pour la destruction. Il n'y avait pas d'autre explication.
Vid mitten av november 1942 hade fransmännen deporterat 42 000 judar. Sen upphörde deportationerna från Drancy under 3 månader. Tyska armén var utsatt för hårt tryck vid den ryska fronten. Tågen behövdes för krigföringen. I juli 1943 beslöt tyskarna att öka deportationen av judar från Frankrike. En tysk utsågs till lägerchef i Drancy, SS-hauptsturmführer Alois Brunner. Brunner hade redan lett deportationen av judar från Berlin, Österrike och Saloniki.
Lorsque les Allemands sont arrivés, là, il fallait faire très attention de ne pas trop les fréquenter. Parce qu'il n'y avait que 3 Allemands dans le camp, mais on les craignait quand même. Ils n'hésitaient pas à tirer un ou deux coups de revolver en l'air. Et on ne sait pas comment ils auraient pu diriger le revolver après, n'est-ce pas? Ils aimaient bien qu'il y ait de l'espace autour d'eux, ils n'aimaient pas être serrés par les... Autant on ne voulait pas les fréquenter, autant ils ne voulaient pas nous fréquenter. Il y avait des interrogatoires aussi par Honner qui se faisait présenter les papiers pour savoir pourquoi un tel ou un tel n'était pas déporté.
Enligt Eva Feigelsons falska papper var hon kristen. Men Brunner var misstänksam och förhörde henne om och om igen.
Toujours cette peur atroce qu'on me batte, qu'on m'assassine. J'avais même vu tirer sur un jeune dans les jambes qui était arrivé de la prison de Fresnes et qu'on avait mis dans la cave. Il y a une prison à Drancy, c'était la cave. Et on mettait beaucoup de jeunes. Je disais, moi aussi, on va me mettre dans cette cave. J'avais toujours très peur. Brunner était toujours assis derrière son grand bureau, qui vous fixait avec des yeux d'un bleu d'acier. Il posait toujours les mêmes questions. Où étiez-vous baptisé? Bruckler se tournait tout autour, toujours avec son air de bœuf. Et de temps en temps, il donnait un bon coup. Quand on répondait pas assez vite, quand on répondait pas ce qui lui plaisait. Et la troisième personne faisait l'interprète. Mais l'interprète était juif, lui, il était juste interprète.
Hösten 1943 hade nästan alla judar i Paris antingen arresterats, deporterats eller gått under jorden. Nu beslöt Bonner att ta itu med judarna från den icke-ockuperade zonen. Han begav sig till Nice och inledde en ny rad razzior. Eric Grossen och hans mamma hade trott sig säkra där.
I was taken downstairs, and I vividly remember a very long table. Three gentlemen sat there, and the one in the middle interrogated me. He asked me my name, where I was born, and he did not want to believe me, and he hit me on the side of the face. And then he made one remark. He said that Jews, blacks, and dogs belong under the table.
Eric kom till Drancy i november 1943 och stannade där i 3 veckor.
I was walking in the courtyard, just taking a walk. All of a sudden I saw an SS officer. I recognized his face. His name was Brunner. I stopped and I said hello to him. I was 15 years old. I didn't know what that was, how ill those people were. He was very docile, very polite. He looked at me, gave me a smile, and walked on. Drancy was a camp of deception. We thought we were going to stay there for the duration. For how long, I had no idea. I had no idea that one day we were going to be shipped out.
Väggklottret i Drancy visar att de flesta fångarna så sent som sommaren 1944 inte kände till sin slutliga destination. Många av dem skrev att de lämnade Drancy vid gott mod. Som de övriga 74 000 deporterade från Frankrike upptäckte Liliane Levy-Aspert att Pichipoy, den okända destinationen, var dödslägret i Auschwitz. 42 000 franska deporterade gasades ihjäl direkt efter ankomsten dit. Liliane utvaldes till arbete.
Alors là, on commence. On vous inscrit le numéro là. Moi j'ai un 74 855. On peut pas l'oublier, il est là. Et au moment où la fille, l'internée, vous la déportée vous raconte ça. Elle dit, tu vois, les flammes là-haut, là. Tu vois, et alors on voit une grande cheminée avec des flammes. C'est les gens de ton convoi qui brûlent. Alors là, on comprend pas. Mais oui, tu vois, c'est, vous êtes sortis du train, vous êtes rentrés, et les autres sont directement partis d'une chambre à gaz. Et là, ils brûlent déjà. Alors...
Eric Rosen deporterades till Auschwitz. Även han utvaldes till arbete och skickades till ett annat läger där han fick arbeta i en kolgruva ägd av det tyska företaget IG Farben.
I was given a shovel to shovel coal. At the age of 15, that shovel was heavier than me. By the time I got the shovel halfway into the railroad car, I lost half of the coal. When the guards saw that, they stopped beating me up. And that was going on for maybe for a few days until one day I just said, I'm not going to do it anymore. When I went to the bathroom to wash up, I saw a faucet. I took a string that was holding my pants, and I took one end of the string, put it around my neck, and the other half on the faucet, and let myself go. And I didn't succeed to commit suicide. It didn't work because somebody caught me and they called the guards and they unleashed the string which was already tied around my neck. And the guards beat me up and they punished me because I was sabotaging the war effort.
Brunner drev förintelseverksamheten vidare på eget initiativ. I augusti 1944 tvingade han UGF att förse honom med namnlistor från judiska barnhem, varefter han lät deportera barnen. Innan han lämnade Paris tog han nyblivna mödrar och deras spädbarn från Rothschild-sjukhuset och skickade dem till gaskamrarna. Av de 74 000 judar som deporterades från Frankrike överlevde endast 2 500. Drancy var hållplatsen före Auschwitz. När Paris befriades 25 augusti 1944 bytte gendarmerna som bevakade Drancy genast sida och gick in i motståndsrörelsen.